Bonjour mes frères et sœurs. Oui, 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 oui. Vous êtes là. Est-ce que vous êtes là? Alléluia. Bonjour mes frères et sœurs. Amen. Voilà. Merci, merci, pasteur, pour la prière. Ce matin, on aura beaucoup de lectures, malheureusement, ou c'est bien. Ô Dieu Tout-Puissant, Père, nous remettons ce message entre tes mains. Parle, touche nos cœurs. Que ton nom soit glorifié, Père. Amen. On va lire dans Luc 7, s'il te plaît, Maïté. Lisons à partir du verset 36. J'aurais besoin, soit j'ai lu moi-même, soit de gens qui... Voilà, comme ça, ça va vite. J'ai toujours quelqu'un qui lit toujours souvent pour moi. Loana, mais non, il y a d'autres personnes. Hein? Ah, Cécile est là aussi. Est-ce qu'on peut lire du verset 36 jusqu'au verset 50? Ah, voilà, c'est parti. Ta foi t'a sauvé, va en paix. Ce pharisien nommé Simon est mis en contraste avec une femme de mauvaise vie. On voit la différence. Pharisien qui invite Jésus. Jésus, viens. Viens chez moi, tu vas manger chez moi aujourd'hui. Wow. Qui d'entre nous ici n'invite pas Jésus à sa maison? Souvent. Et ça, c'est nous chrétiens, c'est comme ça. On t'invite. Jésus, viens, prends possession de ma famille. Viens, Jésus, viens régner dans ma famille. Viens, Jésus, je te confie mon couple. Viens, Jésus, je te confie mes enfants. C'est ça ce qu'on fait. Oui ou non? C'est ça ce qu'on fait. Et c'est ça ce que ce pharisien Simon a fait. Viens Jésus manger chez moi. Vous savez, c'était de coutume, quand tu préparais un festin comme ça, et on devait laver le pied des invités. Pourquoi? C'est parce qu'à cette époque, il n'y avait pas de pavé comme on a maintenant. Donc, les routes étaient poussiéreuses. Et quand les invités venaient, et souvent, les gens mettaient des sandales. Donc, ils avaient des pieds poussiéreux ou pleins de boue. Donc, on lavait le pied des invités avant de commencer à manger. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Cette femme pécheresse que la Bible nous dit, la Bible ne nous explique pas c'est quoi son péché. Probablement, peut-être, elle était une prostituée parce qu'elle était connue dans la communauté. Et quand on entend comment Simon parle d'elle, donc c'était quelqu'un qu'on ne pouvait pas approcher. C'était quelqu'un qui était sale. Mais cette femme a su que Jésus mangeait quelque part. Elle se présente. Elle se présente avec ce vase plein de parfum. Si elle était prostituée, bon, la Bible ne confirme pas, mais on suppose que c'était quelqu'un qui avait des moyens de revenus limités. Il n'y avait pas beaucoup de, elle n'avait pas beaucoup de revenus. Mais elle s'est permis de venir avec le vase plein de parfums. Donc ça lui a coûté toute une fortune. Et cette femme, non seulement elle vient, et moi j'ai bien aimé l'attitude de cette femme. La Bible nous dit, elle vient. Elle ne se présente même pas devant Jésus, mais elle vient par derrière. Donc, elle vient d'une manière, « Oh Seigneur, dans ma situation, je n'ose même pas venir en face de toi. » Et c'est par derrière. Elle commence à pleurer, à pleurer. La Bible nous dit, des larmes qui coulent, c'est avec ces larmes qu'elle va mouiller le pied de Jésus. Et elle va essuyer le pied de Jésus avec ses cheveux. Voilà l'attitude de cette femme. Et elle commençait à baiser le pied. Donc c'est une sorte même de soumission. Oh, Seigneur, Seigneur, elle pleurait. Elle pleurait. Et c'est quoi ces larmes qui coulaient? Vous savez, ce message, Dieu vraiment m'a montré ce message quand j'étais au Congo. Donc ça fait presque 2 mois. Je disais le premier jour que le pasteur va me demander, ben, ça sera le message pour l'Église. Et ce message, j'ai tellement lu plusieurs fois moi-même. Je me posais même la question des larmes de cette femme qui coulait, c'était quoi? Est-ce que c'était des larmes de repentance? Parce que tellement, oui, c'est connu, je suis une pécheresse. Et que devant Dieu, devant Jésus, je pleure parce que je demande pardon. Ça pourrait être ça. Mais ça pourrait être aussi des larmes de joie parce que je me retrouve maintenant devant la personne qui est capable de me pardonner. Ça pourrait être ça aussi. Et cette femme pleurait. Est-ce qu'elle pleurait de joie ou elle pleurait parce que c'est pour se repentir? Et elle baisait le pied de Jésus. Qu'est-ce qu'on peut tirer de cette histoire-là, à partir de là? Simon a invité Jésus, ok, mais ça s'est arrêté là. Mais cette femme, elle n'était même pas invitée. Elle s'est présentée parce que Jésus était là. Et elle a montré son amour. Mais je crois que la première chose qu'elle a montrée, c'est le respect. Le respect pour Jésus. Le respect. Et moi, je me suis posé la question, nous, chrétiens, nous invitons souvent Jésus. Est-ce qu'on respecte Jésus quand nous l'invitons chez nous, dans nos maisons? Quand j'invite Jésus dans ma vie, est-ce que je le respecte? Respecter, c'est mettre en valeur cette personne que tu respectes. Mettre en valeur. Combien de fois tu mets en valeur ton Dieu? Je ne suis pas là pour pointer le doigt que tu es comme ça, moi aussi. Combien de fois je n'ai pas honte de parler de mon Dieu? Combien de fois? Combien de fois, non seulement j'ai honte, mais j'ai tellement peur que les gens vont me dire, ah non, toi avec ton Dieu. je n'ose pas parler. Mais cette femme, elle n'a pas regardé son passé. Elle n'a pas regardé. Elle savait qu'il y a quelqu'un qui est capable de me pardonner. Mais moi, comme toi, mon frère, ma sœur, ce matin, je peux paraître devant les êtres humains, devant mes frères et sœurs. Oh, je suis un bon chrétien. Mais dans la profondeur de mon cœur, il n'y a qu'une personne qui sait, c'est Dieu. Et ce matin, est-ce que tu vas te présenter comme cette femme devant Jésus? Est-ce que tu vas te présenter et tu vas pleurer comme cette femme pleurait? La première chose qu'on constate chez cette femme, c'est le respect. Et la deuxième chose, on voit qu'elle se met à pied, par terre, elle commence à baiser les pieds de Jésus, elle pleure, c'est la soumission. Donc, plus que ça, on ne sait pas dire, elle se soumet. Et nous, chrétiens, est-ce qu'on se soumet à notre Dieu? On invite Jésus à la maison. Jésus vient dans ma maison. Jésus vient régner. Jésus, tu vois mes enfants qui commencent à grandir. Et j'ai des enfants qui commencent à aller 10, 8, 10, 12 ans. Et c'est la période difficile qu'on me dit ici. Hein? L'adolescence. Ah oui, parce que les enfants à cet âge-là, à 12 ans, 13 ans, ils savent plus que nous les parents. Mais tu dis, Seigneur, je te confie mes enfants. Mais est-ce que toi, dans ta maison, est-ce que tu te soumets à Jésus? Et on a vu aussi dans l'attitude de cette femme, c'est l'amour, l'affection. L'affection, l'amour. Tu aimes, et elle aime Jésus. Et toi, chrétien, j'imagine, on aime Dieu, on aime Jésus, n'est-ce pas? Oh! Moi, je croyais que quand je disais, vous les chrétiens, vous aimez Jésus. Amen. Mais voyons maintenant l'attitude de Simon. Parce que lui, il se disait, je fais mon job. J'ai invité Jésus à la maison pour manger. Est-ce que c'est nécessaire même de laver ses pieds? Est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que c'est nécessaire? Est-ce qu'il a besoin peut-être? Et le malin profite. Le malin profite. On voit la Bible nous dit, Simon commençait à douter. Et Simon dit, mais est-ce que c'est vraiment celui que j'ai invité chez moi manger? Est-ce que c'est vraiment le prophète? Est-ce que je ne me suis pas trompé? Attention quand tu invites Jésus chez toi. Mais si tu ne respectes pas, si tu ne te soumets pas à lui, et si tu ne montres pas vraiment cet amour pour lui, des doutes peuvent venir. Tu peux commencer à douter. Tu peux commencer à douter comme Simon. Mais Jésus a tout compris. Et Jésus va lui expliquer par une parabole plus simple. Et là, Jésus va lui faire comprendre que c'est lui qu'on a remis la dette, qui avait une dette très très lourde qu'on a remis sa dette, cette personne va aimer plus que celui qu'on a remis un tout petit peu. La femme, cette femme s'est fait vraiment beaucoup pardonner parce qu'elle aimait beaucoup Jésus. Elle a pris conscience qu'elle était pécheresse, qu'elle avait besoin de pardon de Jésus. Par contre, comme j'ai dit tantôt, Simon, qui se sentait pur, qui se sentait juste, et c'est souvent comme nous, beaucoup de chrétiens. Mais oui, mais j'invite Jésus chez moi. Je n'ai rien fait de mal. Et tu t'es dit, tu commences à réfléchir, mais au fait, je ne fais pas beaucoup de péché, moi. Je ne fais pas de péché. Tous les dimanches, je viens au culte. De temps en temps, je viens le mercredi à la prière. De temps en temps. Quand il y a fête de Noël, ben je suis là. De temps en temps, je donne un coup de fil à un frère ou une sœur. Mais je ne fais rien de mal. Donc, je suis pur, je suis juste, comme Simon. Simon se disait, ben, Jésus, il n'y en avait rien de spécial à faire pour Jésus. Et comme toi, tu t'es dit, bon, il n'y a rien de spécial pour Jésus. Je suis en contact avec lui. Mais voilà la réponse de Jésus à cette femme. Et j'ai bien aimé cette phrase-là, ce verset-là. Le dernier verset. Jésus lui dit, ta foi t'a sauvé. Ta foi t'a sauvé. Et ce matin, je vais te dire, est-ce que Jésus peut te dire « ta foi t'a sauvé » ? Voilà le mot est lancé, la foi. La foi. Mais la foi sans les œuvres, elle est... Ah, merci. Merci. La foi sans les œuvres, elle est morte. La femme pécheresse, on a vu l'œuvre. C'est la foi qui sauve par les œuvres. On a vu l'œuvre de cette femme. Amen. On va lire encore. Je vous avais promis beaucoup de lectures. Est-ce qu'on peut lire dans Jacques 2, 21 21 à 26. Ici, on va voir l'exemple de Abraham. La foi sans les œuvres, ça ne sert à rien. Elle est morte. On a donné l'exemple d'Abraham. Son fils unique, son fils de promesse, son fils qu'il a eu, il avait 100 ans. Oh, humainement, on n'espère plus. On n'espère plus. Mais il a accepté d'offrir à Dieu cet enfant. C'est ça l'œuvre. La Bible nous dit, à partir de cette œuvre-là, Abraham, on l'a appelé ami de Dieu. Est-ce que ce n'est pas quelque chose qui t'interpelle? Est-ce que tu n'as pas envie qu'on t'appelle ami de Dieu? Est-ce que tu n'as pas envie que Dieu te dise, « Ah, mais tu es vraiment mon ami, comme Abraham. » L'œuvre. Œuvre. souvent, on se dit, mais comment je peux faire ça? Comment je peux œuvrer pour Dieu? Il y a beaucoup d'impératifs qui m'empêchent. La première chose qui peut t'empêcher, c'est la peur. J'ai peur de travailler pour l'Éternel. La deuxième chose, on peut dire, c'est la timidité. On peut dire aussi le manque de confiance en soi. Je suis incapable. Je n'ai pas assez de temps. À ça, souvent, on entend ça. Mon travail, je reviens de mon travail. On va dire même, mais est-ce que vous comprenez ma situation? Je me lève à 5 heures du matin. Je quitte ma maison à 6 heures. Et je vais travailler et je reviens vers 17 heures. Et à 17 heures, je dois m'occuper de mes enfants. Je veux faire ça, ça, ça. Et je dois aller chercher mes enfants, je dois les conduire et les ramener à la maison, les activités, et je reviens à la maison faire à manger le souper. Oh! Et quand j'ai peut-être 5 minutes ou 10 minutes pour moi pour me reposer, eh bien voilà mon mari qui revient du travail. Allez, je dois m'occuper de lui aussi. Oh, je n'ai pas le temps. Quand est-ce que je peux œuvrer pour l'Éternel? Quand? Mais je t'aime, Seigneur. Voilà la phrase qu'on dit toujours. Seigneur, je t'aime. Je t'aime. Mais je n'ai pas le temps, Seigneur. La Bible te dit quelque chose. Quand tu aimes, tu ne peux pas avoir peur. Est-ce que vous croyez? Quand tu aimes, tu ne peux pas avoir peur. Est-ce que vous croyez? Il y a un verset qui peut confirmer ce que je viens de dire. On lit 1 Jean 4, 18. Il y a un verset qui peut confirmer. Quand on aime, on n'a pas peur. Amen. Quand on aime, on n'a pas peur. Amen. Quand on aime, on n'a pas peur. Ceux qui sont mariés savent ça. Hein? Non? On ne sait pas. Mais l'amour parfait chasse la peur. En fait, on a peur que quand on attend une punition. Mais est-ce qu'avec Dieu, quand tu l'aimes, tu auras une punition? Quand tu travailles pour Dieu, tu vas avoir une punition? Celui qui a peur n'aime donc pas de façon parfaite. Tu n'aimes pas d'une manière parfaite. Quand tu aimes, tu n'as pas peur. Alors, la vraie question maintenant, je veux faire comme cette femme pécheresse. Seigneur Jésus, je vais travailler pour toi. Seigneur, je prends une décision ce matin. Je me lève. Qu'est-ce qui m'empêche? Est-ce que c'est mon âge? Parce que j'ai l'impression que je suis un tout petit peu âgé. Oh, ma sœur, mon frère, je vais te dire, la Bible, il y a l'exemple de Caleb, par exemple. Est-ce que quelqu'un connaît l'histoire de Caleb? Et qu'est-ce que Caleb disait à Josué? Il avait quel âge encore? 75 ans. Il dit, je suis encore fort pour travailler pour l'Éternel. Amen. Ah oui, ce n'est pas parce que bon, moi, je suis dans les 60, plus de 60. Est-ce que je peux dire maintenant, c'est bon, arrête? Oui. Pour travailler pour le pays, pour l'État, je peux dire, oui, je vais chercher ma retraite. Mais est-ce qu'il y a une retraite pour l'Éternel? Amen. Caleb, il a travaillé même jusqu'à ses 75 ans. Et il y a aussi l'histoire de cette femme qui, on avait présenté Jésus, vous vous souvenez dans la Bible, et qui disait, maintenant Seigneur, tu peux me reprendre parce que j'ai vu. Amen. Et cette femme, elle est restée toute sa vie pour travailler pour l'Éternel. Il n'y a pas d'âge de retraite. Amen. L'Éternel a besoin de toi. Il n'y a pas d'excuse. Désolé pour toi. Qu'est-ce qui va te dire, je ne veux pas me lever pour l'Éternel? La maladie. Mais lui-même, il dit, je suis capable de guérir. Amen. Je suis capable. Alors, comment je vais travailler? Je vais faire comme cette femme pécheresse. Seigneur, dis-moi, je fais quoi? Il faut le connaître. Et Seigneur va te dire, j'ai besoin de toi de tel, tel, tel endroit. On a prié mercredi. Vous vous souvenez de ce qui était là mercredi? On avait demandé, Seigneur, montre-nous, montre à chaque chrétien, montre-nous qu'est-ce qu'on est capable de faire. Mets chacun à sa place comme toi tu le veux dans ton église. Tout le monde doit fonctionner. Amen. Tout le monde doit fonctionner. Arrête de te dire je suis incapable. Ah non, 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 ça c'est pour eux. Ah non, moi je ne parle pas bien, je suis timide. Non, l'Éternel a besoin de toi. Amen. Ta place est ici. Mais si on lit dans la Bible, l'Éternel te dit, la première chose qu'il dit, allez annoncer la bonne nouvelle. C'est du travail, ça. Aller annoncer la bonne nouvelle, c'est commencer par là où tu habites. Si je pose cette question maintenant, je crois qu'on va commencer à regarder par terre, moi le premier. Hein. Le voisin qui est à côté de toi, à gauche, tu lui as déjà parlé de l'Éternel, là où tu habites? Ton voisin à gauche, tu lui as déjà parlé de l'Éternel? Ok, j'ai essayé, ça n'a pas marché. Et celui qui est à droite, tu lui as déjà parlé? À ton boulot, à ton boulot, le collègue qui est toujours en face de toi, à ton boulot, est-ce que tu lui as déjà lancé un petit mot que Jésus est vivant? Tu as déjà fait ça? Même pour les enfants, même pour les jeunes. Hein? À l'école, est-ce que tu as déjà parlé à tes copines de l'école ou tes copains de l'école? Allez annoncer la bonne nouvelle. C'est vrai, on va évangéliser, mais toi-même, tu parles. Parce que, vous savez, cette femme pécheresse, quand elle a fait ça, elle n'a regardé ni à gauche ni à droite. Parce que si elle commençait à regarder, je crois qu'elle n'allait pas oser avancer vers Jésus. Parce que tout le monde connaissait qui elle était. Tout le monde savait que, ah, non, elle, non, 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 non. Tu vois, elle savait que, non, non, je suis une pécheresse. Mais elle n'a regardé ni à gauche ni à droite, elle a regardé Jésus. Et toi, quand tu vas annoncer cette bonne nouvelle, est-ce que tu oses regarder en face en disant, je n'ai pas peur, je vais parler. Aller annoncer cette bonne nouvelle comme témoigner de Jésus. C'est ça, ce que Jésus te demande. ou faire du bien au prochain.
Ah, à propos faire du bien, on va lire encore quelques versets. On peut lire, Maïté, tu peux mettre Matthieu 25. Désolé, j'ai pris le temps un peu en retard, mais on va aller vite maintenant, vite, vite. Matthieu 25, 31-40. Pourquoi j'ai pris ces versets? C'est pour te dire, pour que ce matin, tu te rendes compte que je dois bouger. Je dois bouger. Je dois bouger, c'est important pour moi. C'est pour ça que j'ai pris ces versets. Il y a quelqu'un qui peut lire ça. De 31 jusqu'à 40. Amen. Voilà. Ça va te faire réveiller ce matin. Je dois faire quelque chose. Est-ce que tu veux qu'à son retour, tu seras à droite ou à gauche? Tu seras à droite ou à gauche? Est-ce que tu seras brebis ou bouc? Amen. Non, mais ça c'est important. Tu seras à droite ou à gauche? Maintenant, on se rend compte que ici à l'église, on commence par l'église, hein, entre frères et sœurs. Je crois qu'à partir d'aujourd'hui, tous nos frères et sœurs qui ont, entre guillemets, isolé, ils ne vont pas dire « je suis isolé ». Parce qu'ils vont recevoir des coups de fil jusqu'à ce qu'ils vont dire « mais on n'a pas demandé comme ça ». De ceux qui sont malades, visiter. Quand on parle de prison, bon, c'est vrai, prison physique, mais ça peut être prisonnier d'une manière spirituelle, morale. Aller visiter les gens. Aller consoler celui qui pleure. Aller à côté de celui que ça fait, tu vois, oh, mais il y a un frère, ça fait, je comptais 3 dimanches, je ne le vois même pas au culte. Qu'est-ce qui se passe? Aller visiter. Peut-être il est déjà prisonnier quelque part et que peut-être il est dans le doute. Il s'éloigne petit à petit de l'Éternel, de Dieu. Mais tu vas, pas pour juger, mais au contraire pour encourager. Et Jésus te dit, à chaque fois que tu faisais pour ce petit qui est son frère, tu le faisais pour lui. Voilà du job, du travail. Voilà le travail. Voilà le travail, mon frère, ma sœur, que tu dois faire maintenant. Je vais déjà t'encourager, le groupe d'intercession. Tous les mois qui viennent passer, les gens du groupe d'intercession sont ici. On a prié. Pour la foi ne baisse pas, ne diminue pas à l'église. On a prié pour vous. Le groupe a intercédé tous les lundis. On a prié pour que la foi ne change pas. Pour que ta foi ne change pas. Et on a prié pour que cette foi soit accompagnée par des œuvres. Et on a vu, je vais m'arrêter ici, on a vu que pour que tu arrives à te lever, il faut prendre une décision. Comme quelqu'un dans la Bible, il avait pris cette décision en se disant, je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur. Parce que ce combat que je vais faire, ce combat que je vais opérer, ce n'est pas moi, c'est l'Éternel qui va faire à ma place. Amen. Mais on va lire, c'est le dernier verset. On va lire, c'est dans 1 Samuel 17. 1 Samuel 17, le verset 46. Avant de lire, je vais juste expliquer en deux mots. Vous voyez, Goliath, qui était grand, la Bible nous dit, est-ce que ce n'est pas 2 mètres qu'il mesurait? 2 mètres, je crois. Et Goliath, pendant 40 jours, il venait devant le peuple d'Israël, leur dire, « Oh, oh, est-ce qu'il y a quelqu'un pour se battre contre moi? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est capable ?» Hein, il pointait des doigts. « Et toi ?»« Ah non, non, pas moi. Et toi ?»« Ah non, non, je n'ose pas. » Il venait tous les jours. Tous les jours. Tout le monde avait peur. Tout le monde avait peur. Et ce gamin qui va venir se présenter, même Goliath lui dit, « Mais attends, 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 on se moque de moi ou quoi ? Mais toi, qu'est-ce que tu viens faire ?» Et lui, il dit, « Je vais me battre. Ce Dieu que tu insultes, c'est mon Dieu. Et je vais me battre contre toi. » Amen. Et quand toi, tu t'élèves, pour faire du bien au prochain, et qu'est-ce qui t'empêche? J'ai dit tantôt, qu'est-ce qui peut t'empêcher? C'est la fatigue, c'est la peur, la timidité. Et ce matin, tu vas dire, je veux me battre contre cette timidité. Je veux me battre contre cette peur. Et voilà ce que Goliath disait. Et ce que David disait à Goliath. Il lui disait ceci. Toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Et ce matin, tu peux dire, je veux que cette timidité doit savoir que j'ai un Dieu parce que je vais combattre cette timidité. Amen. Je veux faire quelque chose. Je veux que je sois quelque chose de nouveau. J'ai bien aimé le culte quand ça a commencé. J'ai même écrit, Brigitte, ce que tu as dit le matin, ce qui était là pendant la louange, tu as dit, il faut que tu changes. Il ne faut pas que tu restes comme un enfant. Tu as donné même l'exemple. Cet enfant qui, à 2 ans, 3 ans, dessine maman avec juste une boule et des traces comme ça. Ah, ce sont les bras de maman et le pied de papa, de maman. Et tu dis, ah, c'est beau. Mais cet enfant, 25 ans, il fait toujours une boule. Ah non, non, là, il y a un souci. Il faut que tu changes maintenant. Amen. Il faut que tu t'élèves maintenant. Il faut qu'il y ait un changement en toi. Il y a un vent nouveau à l'église où tout le monde est important, tout le monde travaille pour la gloire de Dieu. Il faut y participer. Amen. Je vais arrêter ici, mais ce n'était pas prévu, Luc. Mais ce que tu avais parlé mercredi, tu t'en souviens encore? Il faut dire oui. Vous étiez là, hein? Ce qui était la mercredi. Oui, 3 fois. Tu t'en souviens plus? Toi, tu t'en souviens? Est-ce que quelqu'un peut me rappeler? Premier oui, c'était? Quand l'Éternel te dit? Ouais. Oui. Oui. Donc, en fait, en résumé, dis oui à l'Éternel, je m'élève pour toi. Voilà. Quelle que soit l'adversité, quel que soit le moment difficile, je vais dire oui pour la gloire de l'Éternel. Amen. Que Dieu vous bénisse.